Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
L'État, au total, apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur.
Prime à la casse, prime à l'achat de l'argent pour inciter les Français à retourner dans les concessions. Les détails donc ce soir du plan annoncé pour l'automobile.
Avec des contreparties demandées aux constructeurs, objectif produire en France les véhicules propres.
Coup de frein sur l'hydroxychloroquine après l'OMS. Les autorités françaises recommandent à leur tour l'arrêt des prescriptions et la suspension des essais.
On lui reproche d'avoir des signaux dans des études observationnelles qui ne vont pas dans un sens favorable.
Dans ce journal aussi, les malades, même faiblement atteints, sont bien immunisés et protégés. Les détails de cette étude avec le docteur Jimmy Mohamed.
Les municipales à Paris, Agnès Buzyn avait disparu. Elle fait savoir qu'elle est déterminée et toujours candidate.
Et puis le retour du public au théâtre dès le mois de juin. Scénario à l'étude, dit le ministre. Les patrons de salles, eux, attendent de voir.
Je n'ai pas le sentiment que d'un point de vue sanitaire, ce soit pour demain l'ouverture, mais tout petit signe d'ouverture est bon à prendre.
La bourse de Paris continue de remonter ce soir, plus 1,4% à 4606 points.
Bonsoir Anissa, le ciel avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien ce ciel reste toujours très bleu. Demain, il va faire beau, encore plus chaud. Mais attention, sur les reliefs, nous aurons un petit peu d'humidité. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
L'image est spectaculaire. Presque un demi-million de voitures neuves sorties d'usines, stockées sur des parkings, attendent d'être vendues. Le secteur automobile à l'arrêt va donc pouvoir profiter d'un plan de plus de 8 milliards d'euros. C'est Emmanuel Macron qui est allé l'annoncer lui-même dans une usine de l'équipementier Valeo, dans le Pas-de-Calais. Aurélien Fleurot, on s'y arrête avec vous. Le premier aspect, c'est donc de relancer les ventes, de ramener les clients vers les concessions.
Oui, avec des primes revues à la hausse et qui vont concerner plus de Français. Il s'agit évidemment de la prime à la conversion, la prime à la casse. 75% de foyers désormais éligibles, ceux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 18 000 euros. Ce sera donc 5 000 euros pour une voiture électrique et c'était très attendu par les professionnels pour justement écouler leur stock. 3 000 euros pour les voitures thermiques, donc essence ou diesel les plus récentes. Cela va concerner 200 000 véhicules, donc premier arrivé, premier servi dans les concessions. Toujours pour l'électrique, qu'il sera possible de cumuler avec une prime à l'achat, un bonus écologique porté à 7 000 euros pour les particuliers. Et puis une nouveauté, 2 000 euros pour les hybrides rechargeables. Donc mettre le paquet sur les véhicules propres, on l'a compris, c'était l'ambition affichée cet après-midi par Emmanuel Macron.
Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus d'un million par an sous 5 ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides, et de consolider en parallèle notre empreinte industrielle.
Et pour accompagner ce parc grandissant de voitures électriques, le réseau de bornes de recharge va se densifier. L'objectif de 100 000 bornes en France en 2022 a été avancé d'un an.
Et en échange, Aurélien, de toutes ces mesures, il y a des contreparties. Les constructeurs aussi ont pris des engagements ?
Ah oui, et le chef de l'État a notamment été très ferme concernant Renault. Le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros ne sera signé qu'avec des engagements forts sur l'emploi, en particulier pour les deux sites de Douai et de Maubeuge. Et puis sur la production en France, Renault va relocaliser la production du futur moteur électrique de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi. Ce sera sur le site de Cléon et à l'origine, cela aurait dû être fait en Asie. Et puis PSA, de son côté également, s'est engagé à fortement augmenter sa production de voitures électriques et hybrides rechargeables en France. 130 000 dès 2021, avec notamment cet engagement de produire la future 3008 électrique sur le site de Sochaux.
Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1. Alors voyons comment ces annonces sont perçues chez un concessionnaire. Benjamin Peter, vous êtes à Toulouse. Ces différentes primes, ça peut faire la différence ?
Eh bien, faire la différence, pourquoi pas. Raymond Vier, qui tient une concession Peugeot en plein centre-ville, est plutôt rassuré, notamment par cette prime à la conversion qui passe donc de 1500 à 3000 euros pour les véhicules classiques, les véhicules thermiques. Alors, sous condition de ressources, Aurélien Fleurot le disait à l'instant, et pour les 200 000 premiers véhicules seulement. Mais ce qu'il redoute, c'est que les clients, finalement, s'habituent un peu trop à des primes et des aides de l'État.
Ce sont des aides incitatives à l'achat. Mais c'est tout. Ceux qui auront été habitués à avoir aujourd'hui 7 000 euros d'avantage, dans 5 ans, ils voudront 7 000 euros d'avantage. Moi, ce qui me paraît insuffisant, c'est le nombre de véhicules. 200 000, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Quand on sait qu'il se vend plus de 2 millions de véhicules par an dans les années normales, 200 000, c'est quoi ? C'est rien du tout, quoi. Ces aides vont nous aider. À nous de devenir bons. Et non pas attendre en disant « ça y est, Macron va tout nous acheter toutes les voitures ».
Voilà, alors ce qu'il salue clairement, en revanche, c'est la multiplication du nombre de bornes pour recharger son véhicule électrique. Lui qui constate que la crainte de la panne reste un frein majeur, toujours, à l'achat de voitures électriques.
Benjamin Peter en ligne de Toulouse pour Europe 1.
Et juste après ce journal, à noter 18h20, je reçois le patron de Toyota France, Franck Marocte, pour sa première réaction. Il était ce matin à l'Elysée, il est dans le studio d'Europe 1 dans un instant.
C'est un symbole en pleine zone rouge. Le printemps Haussmann, célèbre grand magasin parisien, va pouvoir ouvrir ses portes, et cela dès jeudi matin. Décision obtenue devant le tribunal administratif qui a suspendu l'arrêté de la préfecture de police qui imposait sa fermeture.
Autre enseigne, la Halle, victime de ces deux mois de crise, on se dirige vers le placement en redressement judiciaire.
Sa maison mère, Vivarte, a reçu 7 offres de reprise, mais au mieux, seuls les 2/3 des salariés seraient maintenus et des centaines de magasins fermeraient. Redressement judiciaire également pour l'enseigne Camailleux. On l'apprend ce soir, Camailleux qui emploie 3 900 salariés.
Le débat est-il clos sur l'hydroxychloroquine? Alors probablement pas à ce rythme-là, mais c'est un gros coup de frein qui est mis mondialement d'ailleurs.
Et qui douche les espoirs que certains avaient placés dans ce médicament. La France suit l'OMS qui a suspendu ses essais avec 2 avis rendus aujourd'hui. Ceux du Haut Conseil pour la Santé publique et de l'Agence du médicament. Victor Dolande, ça veut dire qu'en France, on va arrêter d'en prescrire?
Oui, comme nous vous le révélions ce matin sur Europe 1, le Haut Conseil de la Santé publique a rendu un avis défavorable. Il faut donc arrêter les prescriptions, même encadrées, d'hydroxychloroquine pour le Covid-19. Pour rendre leur avis, les experts ont analysé plusieurs études internationales, dont celle du Lancet. Toutes arrivent aux mêmes conclusions. Il n'existe aucune certitude sur l'efficacité du traitement. En revanche, la toxicité cardiaque, elle, est bien réelle. Alors, le professeur Didier Raoult a déjà balayé l'étude du Lancet sur sa chaîne YouTube. Pour lui, cette étude est, je cite, « foireuse ». Invité à la mi-journée sur Europe 1, le professeur Christian Funk-Brentano, directeur du centre d'investigation clinique APHP Sorbonne Université, renvoie dans les cordes le professeur Raoult.
S'il considère qu'elle est foireuse, ça veut dire qu'il considère que toute forme d'approche épidémiologique est foireuse. Je reprends l'exemple que j'ai pris à d'autres occasions. La démonstration du lien établi entre le tabac et les cancers, elle est issue d'études épidémiologiques qui ont montré une association très ancienne entre le tabagisme et le cancer. Et cette association a été confirmée comme étant causale par toute une succession d'études.
Reste maintenant au ministre de la Santé, Olivier Véran, à trancher. S'il suit l'avis du Haut Conseil de la Santé publique, il devrait prendre un nouveau décret dans les prochains jours pour limiter au maximum les prescriptions de ce médicament. Et puis, coup d'arrêt double pour l'hydroxychloroquine en France, puisque l'Agence du médicament a lancé aujourd'hui la procédure de suspension des essais cliniques. Actuellement, il y en a 16 dans le pays. Si cette procédure va à son terme, ça signifie que ces essais n'incluront plus de nouveaux patients. En revanche, pour les malades qui prennent déjà de l'hydroxychloroquine dans ses essais cliniques, il n'est pas question d'arrêter le traitement.
Les précisions de Victor Dolande du service Société d'Europe 1.
On va y revenir dans le détail avec les grandes voix. C'est à 18h30, vous avez ce rendez-vous explicatif. Il y a une autre question en suspens. Est-on protégé du virus lorsqu'on a été malade? Et bien sur ce point, c'est une bonne nouvelle. Une étude semble confirmer.
Bonsoir docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Étude menée par l'Institut Pasteur et le CHU de Strasbourg et qui est plutôt optimiste puisque la très grande majorité des patients, même ceux qui ont été faiblement atteints, seraient donc désormais immunisés.
Et oui, c'est une bonne nouvelle puisque c'était une des grandes interrogations. Est-ce que le fait de faire des formes très légères pouvait conférer une immunité? Et là, on a testé des personnels soignants, 160 malades, qui ont fait une forme mineure de la maladie, c'est-à-dire pas besoin d'oxygène, pas besoin d'être hospitalisé. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des anticorps à 15 jours de la maladie et que chez 98% d'entre eux, ils avaient des anticorps neutralisants, ceux qui vous protègent d'une nouvelle infection un mois après l'infection. En revanche, on ne sait absolument pas si ces anticorps vont durer longtemps, est-ce qu'ils vont vous protéger en cas de nouvelle vague. Et dernière incertitude, est-ce que les gens asymptomatiques qui auront une sérologie seront protégés de la même façon? Mais voilà, on peut se contenter de cette nouvelle, c'est plutôt rassurant.
Merci docteur Jimmy Mohamed. À demain dans ce journal de 18h, dès 15h dans l'émission Santé d'Europe 1, sans rendez-vous aux côtés de Mélanie Gomez.
Et autre outil créé de toutes pièces pour tenter d'enrayer l'épidémie, l'application mobile Stop Covid. Elle sera peut-être téléchargeable dès la fin de la semaine. Elle a été créée par le gouvernement. Elle est destinée à nous prévenir lorsqu'on a été en contact avec un malade. La CNIL a donné son feu vert. Les députés vont en débattre demain. On y revient dans le journal de 19h.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La politique, Agnès Buzyn qui réapparaît, elle reste bien candidate à Paris, on en parle dans quelques secondes.
Et puis un fauteuil au théâtre ou une place de concert, ça vous dit? Ce sera peut-être possible dès le mois de juin.
Europe 1.
18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et pendant l'épidémie, elle est retournée exercer à l'hôpital, au point que certains se demandaient si elle n'allait pas abandonner la politique. Agnès Buzyn qui réapparaît alors.
Oui, après ses vives critiques envers le gouvernement, beaucoup s'interrogeaient, encore plus ce matin lorsqu'elle a annulé une réunion prévue avec ses colistiers parisiens. Bien, finalement, la visioconférence a eu lieu cet après-midi. Jean-Gabriel Bourgeois et Agnès Buzyn a levé les doutes. Elle est donc toujours candidate à Paris.
Oui, c'est la fin du suspense. Agnès Buzyn maintient sa candidature dans la course à la mairie de Paris. Il faut dire que plusieurs de ses colistiers à qui j'ai pu parler ces dernières heures craignaient qu'elle renonce. « Je suis déterminée à marteler la candidate de La République En Marche au cours d'une réunion avec les têtes de liste parisiennes en début d'après-midi. Elle a beaucoup réfléchi, elle avait besoin d'y voir clair », m'a confié l'une d'elles, rassurée. Un autre participant le reconnaît, Agnès a hésité. Mais Guillaume Poitou, tête de liste dans le 11e arrondissement, est toujours resté convaincu de l'engagement de l'ex-ministre.
J'ai jamais eu un doute sur le fait qu'elle soit candidate, qu'elle porte nos valeurs progressistes, qu'elle porte l'action du gouvernement et qu'elle se défende sur sa propre action en tant que ministre auprès des médias dans les jours qui viennent.
Car c'est bien ce qui attend Agnès Buzyn. Une interview est prévue dans les prochains jours. Elle affrontera toutes les questions, prévient son équipe, ressoudée. À un mois du second tour des municipales, on a évité un nouveau psychodrame, souffle une tête de liste, une autre acquiesce. Après l'affaire Benjamin Griveaux, en février, on avait cramé la Saint-Valentin. On a réussi à sauver la fête des maires dimanche prochain.
Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1 et pour ce second tour donc des municipales qui est donc prévu désormais le 28 juin. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner se dit prêt à étudier la possibilité de réautoriser le vote par correspondance pour qu'un maximum de Français puissent voter.
On va y revenir au cas Buzyn dans les grandes voies avec Mickaël Darmon notamment. Et puis la ministre de la Justice Nicole Belloubet, elle a été retoquée Sébastien par la Cour de cassation.
En cause, une ordonnance prise pendant le confinement et qui autorisait l'allongement de la détention provisoire pour les prisonniers pas encore jugés. La Cour estime qu'il y a un risque sérieux que cette mesure ne soit pas conforme à la Constitution.
Et la pression qui monte en attendant jeudi et les détails de la suite du déconfinement. Les présidents de régions, Hauts-de-France et Grand Est, demandent à passer au vert et ce au plus vite.
Xavier Bertrand et Jean Rottner ont écrit au Premier ministre. Ils estiment que la situation sanitaire ne justifie plus que leur région soit toujours classée rouge sur la carte et que cela est même dégradant.
Les acteurs de la culture aussi attendent des annonces pour la suite du déconfinement. Pourra-t-on retourner au cinéma, par exemple, ou au théâtre ?
Eh bien, le ministre de la Culture évoque un scénario à l'étude, Angèle Châtelier. Les cinémas pour juillet, mais les salles de spectacle, les théâtres, dès le mois de juin ?
Oui, une réouverture progressive du moins. On imagine des petites salles, mais ça risque d'être compliqué, selon Jean-Marc Dumonté, producteur et propriétaire de plusieurs théâtres.
Si on nous demande de restreindre nos jauges à un tiers, c'est rigoureusement impossible. À moins de 50 ou 60%, ça ne tient pas la route d'un point de vue financier, évidemment. Et si une salle est clairsemée, si c'est des contraintes pour se rendre au spectacle, alors, et ça tue la magie du spectacle. Mais tout petit signe d'ouverture est bon à prendre.
Un autre propriétaire de théâtre le confirme. On ne peut pas ouvrir en étant sûr de perdre de l'argent, dit-il. Alors nous en saurons plus jeudi, tout comme la réouverture des cinémas. Le ministre de la Culture a renouvelé son désir que ce soit pour le 1er juillet et partout en France, peu importe si le département est en rouge ou est en vert. C'est ce que souhaitent les exploitants, a-t-il rappelé. C'est économiquement plus viable, nous confie un acteur du secteur, que ce soit pour la promotion des films comme pour les coûts de distribution.
Angèle Châtelier du service Culture d'Europe 1 et sur scène, et bien bientôt vous pourrez peut-être retrouver Indochine. Célébration. Voilà, c'est le nouveau titre d'Indochine qui a été mis en ligne aujourd'hui, prélude à un nouvel album qui va sortir et à une tournée prévue pour 2021 avec, imaginez, des stades. Stade de France, Stade de Vélodrome.
Il
va vraiment falloir sortir de cette épidémie pour qu'ils aient lieu, mais on va le souhaiter.
Voilà, un extrait qui donne envie et des dates déjà. Hein. Il parle de juin 2021 quand même, hein. Ça fait dans un an.
Ça laisse de la marge.
Mais bon, on y croit. Et on attend ça avec impatience. Merci Sébastien Krebs. À tout à l'heure, Anissa. Le temps est du beau temps, avec quand même un peu d'humidité.
Oui, un petit peu d'humidité, effectivement, Nathalie. Ça concerne les reliefs, les Pyrénées, les Alpes, demain matin avec quelques petites averses. Et dans l'après-midi, eh bien, cette humidité, ces averses, elles concerneront aussi les reliefs massifs corses et ceux du massif central. Ce sont des cumulus qui se forment en altitude et qui lâcheront quelques gouttes. À l'est, en Alsace-Franche-Comté, demain le vent souffle. C'est le vent d'est qui souffle, donc il rafraîchit un peu l'atmosphère, mais ça fait du bien. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil pour tout le monde. Les températures, elles sont stationnaires. Demain matin, 7 à Montluçon, 10 à Saint-Étienne, Strasbourg et Belfort, 12 à Grenoble, 13 à Paris et Limoges, 15 à Marseille et déjà 17 à Toulon en début de journée. Et dans l'après-midi, ça grimpe encore demain avec 22 à 27 degrés sur le nord-ouest et le nord de la Normandie ou Hauts-de-France, 25 à 30 partout ailleurs. Nous aurons 18 à Dunkerque, 27 à Paris et 31 pour Mont-de-Marsan.